le projet de canal Seine-Nord-Europe doit relier Auban-Chélobac près de Cambrai et Compiègne. Long de 107 km, il deviendrait le maillon central d'un réseau fluvial à grand gabarit entre l'Île-de-France et l'Europe du Nord. Avec près de 2500 hectares d'emprise agricole, 35 millions de mètres cubes d'eau prélevée, 78 millions de mètres cubes de déblais prévus, pour un coût aujourd'hui réévalué à plus de 10 milliards d'euros, sa construction engage des travaux d'infrastructures pharaoniques. À ce titre, il est parfois qualifié de chantier du siècle. Du 9 au 12 juillet, un village militant éphémère s'est installé à Villers-aux-Tertres, entre Douai et Cambrai, pour protester contre la construction du canal Seine-Nord-Europe. Une mobilisation d'envergure nationale avec des tables rondes, une balade à vélo, des concerts et une manifestation à pied et sur l'eau. Nous y avons mené une série d'interviews pour comprendre les différents aspects du projet de canal. Aujourd'hui, nous nous attardons sur les impacts environnementaux d'une telle construction avec Cora, membre des Naturalistes des Terres.
Donc c'est un chantier qui s'étend sur 107 km, ça c'est le canal Seine-Nord-Europe strict, mais en fait il y a la liaison Seine-Escaut qui va vraiment de Paris jusqu'à la vallée de l'Escaut, donc vers Lille, et là qui a une emprise un peu plus grande, mais pour lequel ce sera des différents types de travaux, et on a essayé de comprendre ce que ça pouvait correspondre en termes de comparaison. C'est 10 fois en termes de terre excavée le tunnel sous la Manche. C'est un canal qui va être apte pour accueillir des méga-barges qui font 4400 tonnes. Et donc, c'est des barges qui font 11 mètres de large au lieu d'une péniche à 5 mètres de large. Donc pour ça, le canal fera 50 mètres de large. Et pour pouvoir construire un canal de 50 mètres de large, on fait des travaux sur une largeur de 300 mètres. Donc de part et d'autre, c'est 200 mètres qui seront complètement détruits en termes d'environnement. Et c'est un tirant d'eau, donc c'est la profondeur du canal à 4 à 5 mètres de profondeur. Donc pareil, on arrive dans les roches-mères aussi. Ensuite à ça, en termes d'eau, on a fait des analyses aussi de pouvoir comparer quel était le volume d'eau qui allait pouvoir être apporté dans ce canal-là. L'eau provient de l'Oise, donc ça va être pompé de l'Oise. Et les volumes d'eau qui vont être apportés, c'est le canal plus la retenue d'eau attenante, c'est 55 fois la bassine de Sainte-Soline. La retenue d'eau elle-même, ça on pourra y revenir, c'est 22 fois la bassine de Sainte-Soline. C'est ce qu'on appelle une giga-méga-bassine en termes, j'allais dire technique, mais pas vraiment technique, mais c'est tellement énorme. C'est énorme. C'est dans une vallée, ils ont fait un mur, une digue qui fait un demi-cercle et qui monte à 42 mètres de haut. On est sur un immeuble de 16 étages pour pouvoir stocker de l'eau et alimenter le canal pour lutter contre l'évaporation de l'eau.
Tu as parlé de 4 mètres ou 5 mètres de tirant d'eau. Est-ce qu'on peut essayer de donner une représentation de ce que ça va représenter sur ces certains endroits, comme tu viens de le faire pour cette giga-méga-bassine ?
En fait, c'est vrai qu'on a une tendance à penser que la région des Hauts-de-France, c'est une région plate. En fait, pas du tout quand on regarde le relief. Pour pouvoir construire un canal comme ça, il y a quand même beaucoup de relief. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 6 écluses tout le long du tracé. Au début, sur le projet initial, il y avait beaucoup plus d'écluses et le projet avait été retoqué parce que trop d'écluses, trop cher. Et en revoyant le projet à la baisse, en descendant à un minimum de 6 écluses, à ce moment-là, il a fallu justement comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte pour que le canal aille tout droit, mais aussi en termes de dénivelé. Et c'est pour ça que, par exemple, à Ytre, le canal coupe le village en deux, mais coupe la montagne en deux. Et donc là, il y a 50 mètres qui sont creusés de part et d'autre. Traverser le champ juste à côté du village, donc avec notre collègue agriculteur Yves Courteau, qui va avoir les 50 mètres de dénivelé au pied de son champ. Et à d'autres endroits, alors pour revenir justement à ce point-là où ça traverse la montagne, la problématique qu'on rencontre à cet endroit-là spécifiquement, c'est qu'il y a la nappe phréatique dans le sous-sol de cette montagne. C'est pas un relief énorme, mais il y a la nappe phréatique, et donc à cet endroit-là, le canal va traverser la nappe phréatique. Et là, nous, ça nous questionne énormément, c'est que on parle par exemple des fois d'artificialisation des sols, d'imperméabilisation avec le béton, mais néanmoins, le béton, ça reste quand même un matériau qui est assez poreux, et du coup, faire traverser une nappe phréatique par un canal, c'est aller au-devant de grosses perméabilités d'eau contaminée, d'eau polluée par le transport fluvial, directement dans la nappe phréatique. Il y a aussi un pont canal, c'est-à-dire que le canal va traverser une grande zone humide. Et en fait, pour ce faire, ils vont faire passer le canal sur un pont au-dessus de la zone humide. Les ponts canaux, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis des dizaines d'années, mais jamais pour des canaux de ce gabarit-là, c'est-à-dire avec une largeur de 50 mètres, 4 mètres de tirant d'eau. C'est quelque chose qui est énorme, et en dessous, en fait, on a une zone humide. La typologie des zones humides fait que ces zones sont quand même très très particulières pour l'environnement en termes de services écosystémiques. C'est pas un terme que j'aime beaucoup parce que la nature elle est pas là pour nous rendre service, mais pour autant en fait c'est quand même quelque chose qui permet de par exemple de faire tampon lors des inondations ou même de stocker du carbone ou même de permettre de filtrer l'eau et d'avoir des eaux de meilleure qualité. Donc faire passer le pont canal au-dessus de cette zone humide, bah c'est mieux que de la traverser, mais ça reste quand même assez problématique en termes techniques et en termes environnementaux.
L'ensemble du canal va être fait en béton.
Il va être fait en béton et il va être imperméabilisé, j'imagine. C'est ce qui nous a été avancé, par exemple, notamment en termes de perméabilité quand on traverse la nappe phréatique. Mais imperméabilisé avec quoi? Avec des résines, avec du goudron, avec je sais pas trop. J'ai pas la donnée. Mais quand on voit les photos aériennes, on voit déjà la largeur du canal. Et quand on s'imagine le nombre de toupies et de béton qu'il va falloir venir, on avait pu en discuter avec Léa Hobson, qui a écrit le livre Désarmer le béton, qui est architecte et qui avait vraiment creusé la question du béton, en fait, des premiers gisements en fait, à la cuisson et à l'utilisation et de toutes les problématiques qui sont faites avec le béton, justement. Qui est un matériau non recyclable en fait.
Tu as parlé de zone humide. Sur le tracé du canal, quel genre de zones sensibles sont menacées?
Il y a la zone là justement où il y a le pont canal, il y a une grosse zone humide aussi qui est vraiment juste à côté de là où on est aujourd'hui. C'est la zone d'arrivée du canal Seine-Nord-Europe près de Aubenche-Laubach, qui est une grande zone humide avec le canal de la Sensée, la rivière de la Sensée. Et en fait elles sont menacées de plusieurs façons. Déjà l'imperméabilisation, le fait que l'Oise soit l'unique provenance de l'eau, donc du coup en fait on va potentiellement assécher ces zones là et après en termes de la biodiversité, c'est-à-dire que ces zones humides sont des refuges assez élevés pour toute la faune associée. Dans la région des Hauts-de-France, les zones naturelles représentent maintenant plus que 13% du territoire, parce que ancienne région industrialisée qui a énormément vécu et maintenant qui s'est aussi développée en termes agricoles. Et donc, reconstruire ce canal proche des derniers reliquats en fait, de corridors écologiques et naturels sur le territoire, c'est aller jusqu'à potentiellement les détruire. Et quand on fait les inventaires biodiversité, les inventaires notamment en termes d'oiseaux sur le canal qui vont être impactés, c'est énormément d'oiseaux migrateurs. La Somme n'est pas loin, mais l'Oise est aussi un spot de repos pour tous ces oiseaux migrateurs. Ce qui fait que ils vont être impactés directement si jamais ils ne retrouvent plus leurs habitats naturels.
Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes d'interconnexion des milieux aquatiques qui a priori ne seraient pas touchés, mais parce qu'on pompe à cet endroit-là plus loin dans l'Oise, on assèche les marais ici du côté de Harleux, ou c'est ce genre de choses qui est envisageable?
C'est vrai que c'est toujours très difficile à documenter, mais en fait on sait que c'est tout le cycle de l'eau en fait, qui va être impacté. On sait que il va y avoir des précipitations, l'eau en surface va ruisseler. Quand il y a une inondation, elle va pouvoir s'étendre. Le fait qu'aujourd'hui on ait asséché certains marais, certaines zones humides, en fait, ça provoque des inondations, mais en temps normal, c'était ces zones humides qui faisaient tampon. Et puis, après, il arrive ces périodes-là, comme aujourd'hui, en fait, où on est en période de canicule, et où l'eau va s'évaporer et ainsi de suite. Si on commence nous aujourd'hui à pomper dans l'Oise, à stopper ces eaux de ruissellement de surface, en fait c'est les marais qui vont se faire assécher plus rapidement, donc l'habitat qui ne va plus être propice pour toutes ces espèces, mais également dans un second temps, dans le cycle de l'eau, ces eaux dans ces marais s'infiltrent et re-remplissent les nappes phréatiques. Et donc ce sont ces nappes phréatiques qui seront de moins en moins fournies et donc de moins en moins disponibles pour les forages des agriculteurs, pour toutes les industries qui veulent faire à côté, ou même ne serait-ce que pour les habitants et habitantes du territoire.
Est-ce que il y a déjà des impacts sur les écosystèmes qui ont été recensés du fait de les débuts des chantiers?
Alors, il y a eu encore très très peu de chantiers qui ont été faits. C'est vrai que malgré tout, la Société du Canal essaye de faire croire que les chantiers, les travaux sont lancés, mais c'est faux. Très peu de chantiers sont déjà en cours. Pour autant, par exemple, là où on était à Montmac l'année dernière pour la mobilisation d'octobre, on a pu observer l'Oise qui a été coupée pour pouvoir recréer un nouveau courant d'Oise un peu décalé avec des méandres très très artificiels. Et sur ce bras-là qui a été coupé, en étant plus alimenté, VNF avait dragué les boues dans le fond et s'était aperçu en fait de la présence de la mulette. Donc c'est une moule d'eau douce. Et même si elle n'est pas protégée, elle est quand même assez rare. Et c'était quand même un témoin de la santé de cette rivière. Et donc ça, par exemple, le fait d'avoir fermé complètement ce bras, c'est toute la biodiversité qui est dedans qui va en pâtir. Nous, si aujourd'hui on se bat en disant qu'il n'est pas trop tard pour arrêter, que le chantier n'est pas irréversible, c'est bien parce qu'en fait, il y a encore des choses à sauver et il y a encore moyen de prouver qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là.
Et mise en avant par la Société du Canal, le dispositif ERC, éviter, réduire, compenser, est-ce qu'on a des exemples de la manière dont ils procèdent avec ce type de dispositif et quel impact ça a réellement pour sauvegarder des écosystèmes ou des zones de biodiversité qui vont être détruites?
Oui, alors ça c'était vraiment leurs grands arguments, éviter, réduire, compenser. C'est quelque chose, nous, aux naturalistes des terres, pour lesquels on est toujours sollicité. C'est-à-dire qu'avant de compenser, on pourrait peut-être éviter le projet, voire le réduire. Et on sait que pertinemment, ils ne sont jamais évités, ces projets-là. Donc maintenant, on se focus toujours sur le compenser. Et là, il y a pas mal d'études qui ont été faites, et notamment avec des copaines NDTR, donc naturalistes de Paris, qui ont pu mettre en évidence, d'après certaines études et des thèses, que certains procédés de compensation, de réduction ou de compensation, en fait, étaient biaisés. Il y a eu un processus, une proposition de réduction, par exemple, en déplaçant certains pieds de plantes. Et on a prouvé par ces thèses-là que, en fait, ça reprend très rarement. Et du coup, c'est énormément de travaux, d'entretien, de maintenance qu'il faut faire derrière pour s'assurer que la station reprenne. Donc là-dessus, on met en doute les processus, la volonté de la réduction qui est mise en avant par la Société du Canal. Ensuite, on s'est posé la question sur ce qui était des compensations. Et plusieurs sites de compensation ont déjà été mis en place, pour lesquels il y a eu des visites et ils ne sont vraiment pas en bon état. Je pense que déjà le climat actuel fait qu'ils ont beaucoup de mal à repartir. Dans certains endroits, ça va être donc des plantations. Dans d'autres, ils ont creusé des mares. Mais c'est des mares qui sont complètement déconnectées de la zone humide. Donc c'est pareil, en fait, ça ne marche pas comme ça. Quelque chose que nous, on a voulu porter en disant, mais donc ça s'appelle ORE, obligation, responsabilité environnementale, je ne sais plus trop. C'est une obligation, en fait, pendant 99 ans, d'entretenir une zone suivant l'entretien, la maintenance qui est décidée. Parce que normalement, une garantie de zone de compensation, c'est 5 ans ou 10 ans. Et après ces 10 ans passés, en fait, qui fait quoi? Comment est-ce qu'on laisse évoluer la zone? On n'a pas d'obligation. Si on pose en ORE cette zone-là, ça permet d'obliger pendant les 99 prochaines années à ce que cette zone remplisse la fonction de compensation pour laquelle elle a été créée. Et ça, pour l'instant, on n'a pas été entendu et c'est quelque chose qui avait été avancé dans le recours juridique justement qu'on a fait au tribunal administratif d'Amiens.
Est-ce qu'il serait envisageable que le canal en lui-même et ses environs, du fait que ce soit des milieux aquatiques et que j'imagine qu'il y aura des arbres autour, ça peut devenir aussi, par exemple, des refuges de biodiversité?
Alors, ce qu'il faut savoir avec les canaux, c'est que ce n'est pas du tout un cours d'eau. Un canal, ce qui se rapproche le plus d'un canal, c'est une bassine. En fait, il n'y a pas de courant. Le courant va de l'amont à l'aval, puis de l'aval à l'amont, suivant l'ouverture des écluses. Donc, on n'attire pas tout le temps tout à fait la même biodiversité. Ce qui fait que on peut avoir des poissons de mare, on peut avoir éventuellement certains oiseaux, peut-être un petit peu d'insectes, mais ça ne reproduit pas un vrai cours d'eau. Donc là-dessus, c'est pas possible. Après, une deuxième problématique qui a été soulevée quand on a regardé le chantier et la proposition de chantier, c'est que les berges du canal sont très très raides. Elles ont des fois parfois plus de 45%. Et là-dessus, ils ont mis, par exemple, tous les 100 mètres, on va mettre un escalier parce que si jamais la grande faune va boire, il ne faudrait pas qu'elle se noie. Et quand on parle par exemple à Ytre, où le canal va être creusé de 50 mètres, on peut imaginer que le canal va être au fond de ces 50 mètres et qu'il va y avoir une berge en dénivelé qui va arriver jusqu'à ces 50 mètres-là. Donc là-dessus, je pense que ça peut même parfois, à certains endroits, être plus dangereux qu'autre chose.